membres du FMI et de l'Union européenne accordent sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, la mobilisation des jeunes, en sont totalement irresponsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du Canu Info du vendredi soir. Cette émission est tout particulièrement dédicacée à Maher, Canil et Jeannette.
Et voilà, tout de suite pour commencer, on reviendra sur la journée d'hier à Lyon.
Ce sera effectivement un reportage et ensuite on parlera de nouvelles armes de la police.
Et on passera ensuite au national parce que on essaiera de voir tout ce qui s'est passé en France cette semaine.
Plein de manifs et plein de blocages, bien sûr. Et ensuite, on parlera de répression avec des militants qui ont été condamnés très durement pour une action antisexiste.
Et oui, il n'y a pas que les militants antisexistes qui sont condamnés, mais l'UMA aussi qu'on va nous-mêmes condamner en faisant une analyse, en voyant comment eux-mêmes analysent les manifs.
Ensuite, on parlera d'une rafle qui a eu lieu à Paris.
Et on ira voir ce qui s'est passé à la Mad Pride cette année.
Ouais, la Mad Pride, c'est à Marseille et c'est la marche des fous. Et ensuite, on ira à Notre-Dame-des-Landes voir un peu ce que ça donne le référendum.
Et ensuite, à l'international, cette semaine, pas de Kurdistan, mais la Colombie et
la France-Afrique.
Et bien sûr, l'agenda pour terminer.
Et vous êtes bien à l'écoute du Canu Info, aller plus vite que sa folie, aller plus loin que le rêve infini, comme dirait Jacques Derrida, et c'est parti pour le jingle local.
Capitale de la résistance, Lyon, capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chanterait.
Coup d'envoi de la grande messe de l'Euro de football est envoyé. Un quoi, les grèves, les manifs, et c'est fini tout ça? Pas si sûr, car le 9 juin, des grévistes de tous les secteurs, raffinerie, transport, métier, éducation, etc., étaient dès 6h du matin, non pas sur le pont, mais sur le port. En effet, le port Édouard Herriot à Lyon a été bloqué de 6h30 à 10h par une centaine de personnes, et ce n'était que le début de la journée. La qualité du son de ce reportage laisse à désirer et nous en excusons. Mais sache, fidèle auditrice ou auditeur de Radio Canu, que c'est seulement le vent de la révolte qui gronde, qui souffle sur les micros de Radio Canu, la plus bloqueuse des radios.
Voilà, mer noire là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? On est où?
Bah alors là on est devant le port Édouard Herriot. L'idée c'était sur un peu une demande des camarades de la raffinerie de Fézin d'avoir une action qui leur permette d'être un peu plus visible que sur leur piquet à Fézin qui est un petit peu planqué, en tout cas qui se voit de l'autoroute mais qui est pas pratique pour discuter. Et puis du coup ben comme enfin moi personnellement je suis cheminot et on est pas mal à être ici, on en est à notre 9e jour de grève consécutif en reconductible aujourd'hui. C'était le moyen aussi de proposer une action qui soit visible et qui retourne un petit peu sur l'interpro. Hein. On a besoin de, je crois, de se soutenir les uns des autres, de se montrer qu'on existe et qu'on est fort. Donc là on est une cinquantaine à avoir bloqué l'accès au port. Et bah on attend du monde, du coup on a fait tourner l'info le plus largement possible et puis on espère que ça pourra tenir un moment, qu'on sera visible et que le message y sera compris. On veut le retrait de cette loi, on veut la démission de ce gouvernement, je crois que c'est un peu ça qu'on a tous dans la tête.
Et donc l'idée voilà c'est de bloquer le port pour bloquer l'économie et du coup bloquer pour forcer le gouvernement à plier.
Voilà, alors pour l'instant c'est une étape intermédiaire, hein. c'est un lieu qui nous permet d'être visible. Ceci étant dit, on n'est pas encore assez nombreux pour bloquer tous les accès du port. On espère bien que dans la matinée, on pourra peut-être se redéployer. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. L'information n'a pas fuité. Il n'y a pas de flics dans le coin. Ils n'ont pas l'air prêts du tout à intervenir. Donc, pour nous, c'est déjà un succès quoi, sur ce début d'action.
Et les gens, entre eux, ça discute, c'est chouette, c'est une bonne ambiance.
Alors, je t'avoue que là, je viens de passer le dernier quart d'heure à envoyer des textos, donc à être un peu en mode autiste avec mon téléphone. Mais j'ai bien l'impression que ça discute, y compris entre gens qui se connaissent pas forcément, qui militent pas dans les mêmes milieux, etc. Donc ça, c'est vachement positif. Ouais. C'était aussi le but, je crois.
Et les autres jours, avec les cheminots, vous avez fait des choses, non?
Ouais, on a fait pas mal d'actions qui consistent pour la plupart à des manifestations. On allait poser des rails devant le MEDEF local la semaine dernière. Hier on est allé à l'hôtel de région, enfin bon le but c'est quand même de pas rester que sur nos piquets et puis d'être visible. Et systématiquement il y a un truc qui est enclenché et que moi je trouve qui va vraiment dans le bon sens, c'est de sortir des tracts aux usagers qu'on peut inonder un petit peu sur le parcours. Pour expliquer un petit peu pourquoi on est en grève, parce que c'est vrai que quand on regarde les médias mainstream, on ne comprend pas forcément le but de la manœuvre. Et mine de rien, on se rend compte qu'on est super soutenu et donc de la matinée. Pour les gens qui vont rester ici, ça va être essayer d'amplifier cette action et puis voilà, de la faire durer. Pour les cheminots comme moi, il va falloir qu'on rejoigne nos assemblées générales, puisque au bout de 9 jours de grève, c'est un peu tendu. Il faut bien être sur les sites pour défendre le fait qu'on doit continuer ce mouvement et pas se contenter des miettes que le gouvernement a imposé à Pépi de lâcher. Et puis voilà, donc voilà. Le but c'est quand même que le lieu, que la présence sur le lieu tourne un petit peu, puisqu'on a tous aussi nos obligations en plein mouvement. On passe nos journées d'action en action. Quoi.
Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer?
Écoute, je sais pas, bien malin celui qui pourra le dire. En tout cas, je sais que cette fin de semaine, elle est stratégiquement, c'est très important de réussir un certain nombre de choses. Et puis tout le monde a un petit peu dans la tête qu'il y a l'Euro de foot qui arrive. Nous, à la SNCF, on est transporteurs officiels de ce truc-là. Donc, il y a quand même un petit peu de l'enjeu à continuer à mettre la pression sur cette grande fête médiatico-capitaliste. Et puis d'en profiter pour imposer un maximum de revendications.
Donc si on veut vous soutenir, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors si on veut nous soutenir, faut déjà venir nous voir. Il y a des piquets qui sont relativement publics. Il y en a devant les ateliers à Oulin, il y en a devant Perrache. À Pardieu, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un lieu sécurisé, donc il faut avoir un contact sur place. Mais en tout cas, déjà venir nous voir et puis discuter avec nous, c'est déjà vachement bien. Par ailleurs, ici ou là, il y a des caisses de solidarité qui existent. Ne pas hésiter, hein, pour tous ceux qui peuvent pas faire grève eux-mêmes, montrer leur soutien aussi par là. Et puis se tenir informé des prochaines actions. Voilà.
Parce qu'on a tenté de mener une action de blocage du port Édouard Herriot avec les camarades cheminots. CH Vinatier et Sud Rail pour marquer le coup, pour montrer notre présence dans le mouvement et que rien ne disparaisse. La lutte continue. On se rend visible par les actions de blocage.
Donc si on regarde dans les médias, on a l'impression que c'est fini la grève, qu'il n'y a plus de pénurie, que c'est bon, ça ne sert à rien.
Et par chance, ce matin, en dehors du port Édouard-Herriot à Lyon, il y a le marché de Rungis qui est bloqué par la CGT, il y a les éboueurs qui bloquent encore à Vitry et à Ivry, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Donc le rail étant toujours en grève, la lutte ne fait que continuer et amplifier. On peut se réjouir de ça, c'est que l'amplification existe.
Et les gens, vous avez l'impression qu'ils le ressentent comment? Là, les gens qui passent devant et que ça klaxonne, ça s'énerve, comment ça se passe?
Il y a un soutien. On ne peut pas dire qu'il y a une désapprobation du mouvement, il y a un soutien du mouvement. Malgré un Premier ministre qui attaque la rue en disant que la démocratie ne se passe pas dans la rue, mais la démocratie est venue que par la rue. La Constitution de la République, elle est venue par la rue.
Et donc si on veut vous aider, vous soutenir, qu'est-ce qu'il faut faire?
Se mettre en grève, tout simplement.
Et là, je continue avec la même retraité rejoint par tous les secteurs en grève de l'agglomération de Metz.
La loi El Khomri, elle va avoir aussi des répercussions pour les retraités.
Du coup, vos revendications exactement, c'est les...
Alors, le détail des revendications. Pas de retraite inférieure à 1600 euros par mois, c'est ça. 1700 euros, c'est même 1700 euros par mois maintenant. Un système de fiscalité qui soit plus juste.
Il y a aussi le rattrapage du pouvoir d'achat qu'on a perdu depuis 5 ans, où on n'a eu que 0,1% d'augmentation. Il y a aussi l'indexation des pensions sur le point d'indice pour les fonctionnaires notamment, puisqu'actuellement il est calculé sur le coût de la vie. Voilà les principales revendications. Et puis bien sûr le droit à la santé, parce que chez les retraités c'est un gros gros problème. Beaucoup de personnes, notamment de femmes qui n'ont pas travaillé à plein temps toute leur carrière, qui ont des pensions inférieures à 1000 euros, voire à 900, et qui renoncent à se soigner parce qu'ils ne peuvent pas.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parmi les retraités postiers, les gens prennent leur retraite arrivés à l'âge auquel ils peuvent prétendre à cette retraite, qui est reculée bien sûr d'année en année. Mais quand ils se retrouvent avec leur retraite, ils sont souvent obligés de retourner travailler. Et ils retournent travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Ils vont faire par exemple de la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir un véhicule personnel qui est à leur charge, bien évidemment. Ils ont des contrats, comment ? D'autres vont faire aussi des ménages. Parce que ceux qui portent les imprimés, il faut voir que ce sont des charges assez lourdes. Vous voyez d'ailleurs les distributeurs d'imprimés, ils ont des petits caddies hein, bien souvent pour porter les charges. Ou alors des femmes qui vont faire des ménages. On connaît beaucoup de femmes qui retournent faire des ménages parce que on compte aussi sur le fait que la femme, le salaire de la femme, ça a été un peu le salaire d'appoint dans un ménage. Sauf que quand les gens arrivent en retraite, si le conjoint décède, puis on ne sait pas ce que la vie peut réserver, hein. Donc beaucoup de femmes se sont arrêtées aussi pour élever leurs enfants. Elles se sont retrouvées en congé parental. Elles ont pris souvent aussi des temps partiels, parce que les temps partiels, ce sont surtout les femmes qui les ont pris. Et elles ont des retraites qui sont amputées. Elles ne s'en rendent pas compte quand elles sont en activité, mais quand elles arrivent à la retraite, elles ont une toute petite retraite. Les femmes retraitées sont doublement pénalisées, en tant que femmes, en tant que retraitées.
Très bien. Donc, grève générale jusqu'au retrait, alors, de la loi.
Oui, jusqu'au retrait de la loi. tout à fait.
Les responsables, je vous crierai les banquiers d'abord, les banquiers d'abord. Un sacré ramassis d'ordures qui avait trop joué à Clandu de résoudre à avouer leur tort, à avouer leur tort. Mais on leur a mis tout le pactole pour enflouer le train de leur col. Moi je les aurais pendus d'abord, ces banquiers retors.
Ah putain, c'est sûr.
Ils n'ont tiré aucune leçon, ils pèsent puis remettent leur caleçon. Et quand ça cogne, ils font les morts, comme ils font les morts. J'ai connu des mulots plus vifs, l'abeille à l'œil un peu plaintif. Avant d'exprimer des remords, le banquier s'endort. Quand la faillite devient à la, finalement c'est aussi grave à qui l'on demande des efforts, toujours plus d'efforts. Et se crèvent de père en fils, sachant bien que leur vie.
La manif, elle est terminée, il est sûr qu'aujourd'hui, on continuera, les fêtés, on se retrouvera au mois de septembre, uniquement aussi pour certaines malédactions. Je vous souhaite à vous de passer de bonnes vacances et à bientôt sur le front de lutte.
Mais alors que tout semble terminé, les cheminotes et les cheminots de garage décident de rentrer en manif jusqu'à leur piquet.
Ouais, on va Perrache, ouais.
D'accord, mais c'est interdit.
Ouais, un peu, mais bon.
C'est pas grave.
C'est pas loin.
D'accord. On est à Cordelier quand même.
Ouais, c'est ça. Bah après, il reste plus que deux arrêts à faire.
D'accord, super.
Oh ouais, ouais, on a décidé de se payer ça, je crois.
Et François Hollande au Pôle emploi. François Hollande au Pôle emploi.
Attends, paniquez pas.
Bloquez tout. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info. Et maintenant qu'on a parlé de jeudi, on va parler du jeudi d'avant. Parce que oui, le jeudi 2 juin, une arme impressionnante a été exhibée par les CRS devant les 50 dangereux et dangereuses manifestantes qui étaient rassemblées devant l'hôtel de ville. Un espèce de gros fusil à barillet qu'on avait déjà vu ces derniers mois à Paris, un genre de sulfateuse. Mais la photo a été prise à Lyon et a circulé sur le net et certains ont cru reconnaître un lanceur de flashball canadien appelé l'Arwen 37. Mais certains détails clochaient. Après des recherches passionnantes sur les forums d'armement, on a préféré tant qu'à faire appeler le ministère de l'Intérieur, sait-on jamais ?
Oui.
Sait-on jamais ? Sait-on
alors,
jamais.
Alors, en fait, toute l'histoire, là, la vérité éclate en direct live. C'est la magie du direct. Jean-Pierre Pernaut serait jaloux de tout ça, puisque le fichier ne passe pas. C'est bien ça.
Ne t'inquiète pas, je peux te donner tout de suite la réponse du ministère, c'est qu'il n'a pas voulu répondre, bien entendu. en même temps, voilà quoi, donc on peut le refaire en vrai. Allô, oui, non, voilà, ils répondent pas. Mais donc, quelle est cette arme? Eh bon, pas de bol, on l'a retrouvée, et elle a déjà été utilisée à Ferguson par les flics américains. Et après avoir symbolisé la militarisation de la police aux États-Unis, ce sont les CRS français qui s'en occupent. Tous les détails en photo et en vidéo dans un article publié ce soir sur rebellion.info.
Et on vous mettra bien sûr le petit reportage qui manque joint sur le fichier du Canu Info sur le blog en ligne.
Mais oui, ça paraît exceptionnel. Et donc, pour continuer, on va faire encore comme notre habitude l'oblige, un petit tour des mobilisations et des manifs et blocages qui se sont passés tout au long de la semaine. Parce qu'il s'en passe des choses. À Lyon, pour commencer, il y avait un rassemblement pour la venue de Laurence Parisot ce lundi 6 juin. Laurence Parisot est intervenue à l'Université Lyon 3 dans le cadre de la soirée Diversité et Entreprise organisée par le groupe Le Progrès. L'ancienne présidente du MEDEF pensait pouvoir distiller tranquillement son discours habituel. On se rappellera ses propos. La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? C'était sans compter une cinquantaine de personnes qui sont rassemblées devant l'université et comme par magie une porte s'est ouverte et la cinquantaine de personnes est rentrée dans l'université au nez et à la barbe des vigiles et ils ont pu rentrer dans la conférence et perturber pas mal ces messieurs dames en costard, d'autant plus que des petits malins et malines avaient préalablement jeté une boule puante à l'intérieur de la salle de conférence au cri de « toc toc toc, qui est là, c'est la classe qui te prendra ». Le rassemblement ressort et s'envole comme par magie. Bien joué. Le mercredi, à Lyon, toujours, il y a eu les cheminots qui remettaient le couvert avec une manif sauvage de Perrache à l'hôtel de région. Et ce jeudi, il y a eu aussi un blocage et une manifestation. Mais ça, on en a déjà parlé dans le reportage.
Et on passe à Paris. Alors, lundi 6 juin, les gares Montparnasse et gares du Nord ont été bloquées suite aux manifestations des cheminots en grève et à l'envahissement des voies. 4 des 6 garages des véhicules de ramassage d'ordures de Paris sont bloqués. Les bureaux de poste de Malakoff est bloqué le matin de lundi 6 juin. Des manifestants et des manifestantes sont venus accueillir Macron, qui était en visite à Montreuil pour inaugurer un timbre pour les 80 ans du Front Populaire. Mardi 7 juin, toujours à Paris, la journée commence fort avec une manif dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et avec le blocage des voies d'accès routières par les grévistes de l'aéroport. Ensuite, le MEDEF a été brièvement occupé. Donc, on vous rappelle, c'est à 55 avenue Bosquet dans le 7e arrondissement, si vous voulez y aller vous aussi. 73 personnes ont été interpellées, mais ont été relâchées après un contrôle d'identité. Une personne a été placée en garde à vue.
Et oui, Paris, Paris, Paris est magique et ça continue avec mercredi 8 juin. Alors, voie 11, à Gare du Nord, quelques personnes redécorent l'intérieur du train du trophée de l'Euro 2016 avec des tracks, des sneakers. Mais devant le désintérêt total des gens pour cet événement, alors à ce moment-là, il y a très peu de personnes, que des vigiles et des stewards, ils en ressortent rapidement. Et face à l'afflux visible de gens hostiles à la loi travail et à l'Euro 2007, le train de l'Euro est désormais complètement bloqué par qui ? Par les CRS. Après avoir été bloqué par les CRS, le train du trophée de l'Euro est donc fermé. Les installations, structures d'accueil sont rangées, l'animation qui devait durer de 9h à 18h est annulée. Et ça part en manif sauvage dans la gare du Nord. Quelques centaines de personnes mettent de l'ambiance dans tout le hall, fumigènes, slogans et quelques banderoles, dont une, tous supporters de la grève générale. Ça crie grève, blocage, sabotage. La manif fait une petite autoréduction au passage dans le magasin de l'Euro et taxe sur la porte. Jouer au football, c'est bien. Foutre le sbeul, c'est mieux. La façade extérieure de l'Eurostade est entièrement taguée. La manif sort ensuite de la gare du Nord pour se rendre à la gare de l'Est, où le cortège rejoint les cheminotes et les cheminots de la gare de Lyon venus en cortège par les voies. Et comme c'était pas assez parce que les gens avaient plein d'énergie, le soir, qu'est-ce qui se passait ? Le gouvernement organisait un meeting de soutien à la loi travail. Alors, peu après 19h, alors que de plus en plus de monde rejoignait le rassemblement, les flics n'ont pas hésité à faire l'usage de leur gazeuse familiale et de leur matraque pour repousser la foule. Il y avait 1000 à 1500 personnes du coup qui sont parties bloquer la voie express Georges Pompidou des poubelles, car c'était aussi la grève des éboueurs et que ça aide bien, ont été mises en travers de la rue et on voit, en voyant les manifestants qui commençaient à être nombreux, ils ont continué sur la voie express. Et après, il y a les flics qui étaient de plus en plus pressants, qui ont poussé la manif vers les rails de Bercy. Les cheminots, ils ont ouvert sur les voies et permis à la manif de rejoindre la gare de Lyon vers 23h. La manifestation se disperse et très bonne nouvelle, aucune arrestation. Et jeudi 9 juin, qu'est-ce qui se passe ? Parce que après tout ça le jeudi, plein d'énergie encore, 700 personnes bloquent le marché de Rungis de 3 à 7 heures, énorme marché de gros de Paris. Et pendant ce temps, c'est 100 000 foyers qui passent la journée en heure creuse, puisque les techniciens EDF avaient décidé, enfin ERDF pardon, avaient décidé de ne plus faire la distinction entre les heures creuses et les heures pleines.
Et voilà, il n'y a pas que Paris qui est magique, il y a Toulouse aussi, parce que jeudi, une belle manif a permis à quelques banques, agences d'intérim ou assurances de revoir leur jolie façade redécorée d'œufs de peinture ou de tag, avant de se terminer devant les locaux du MEDEF. La manifestation, bien sûr, hein, pas les vitrines des agences d'intérim et des banques. Et aujourd'hui, à 11h, le maire de Toulouse voulait inaugurer un magnifique maillot géant aux couleurs de l'Euro 2007 sur la façade du Capitole, mais quand même, une centaine de personnes se sont rassemblées et ont perturbé cette belle manifestation de, voilà quoi, de glorification de l'euro au cri de et 1 et 2 et 49-3.
À Marseille, une centaine de militants CGT et quelques-uns de Sud et de la CNT ont bloqué l'incinérateur de déchets des Bouches-du-Rhône à Fos. Le train et les camions de poubelle ont été bloqués à Marseille. Ensuite, toujours à Marseille, suite à l'immolation d'une personne devant la caisse de retraite de Marseille le 27 avril, un appel à manifester devant la CARSAT avait été lancé pour le 9 juin. De nombreuses personnes s'y sont rendues ce matin. Le rassemblement s'est vite transformé en blocage et tout le monde a fini par s'engouffrer dans les locaux de la CARSAT pour mettre plus de pression et faire entendre de vive voix les revendications portées à l'intérieur et à la direction. Voilà, ça a duré une heure, puis les flics sont arrivés pour déloger tout le monde sous bonne surveillance.
On passe à Saint-Étienne, donc mercredi 8 juin à 18h. Les éboueurs et les agents municipaux grévistes qui, depuis 8 jours, occupaient le centre technique municipal ont levé leur piquet de grève suite à une décision du tribunal administratif. Les agents donc vont devoir travailler de nuit pour tout préparer, pour que tout soit prêt pour l'Euro 2016. Jeudi 9 juin, toujours à Saint-Étienne. Il y a une belle manif avec environ 2000 personnes, sachant que les lycéens et les lycéennes n'étaient pas présents à cause du bac et qu'il n'y avait pas eu d'appel national. Du coup, quand même pas mal de personnes. Et manif bien déterminée avec plein d'actions sur les trajets du cortège, avec de la peinture et des œufs sur des cibles sympas comme les pubs, les banques, les grosses enseignes, les panneaux de l'héros, les caméras et des super slogans. Donc une grosse ambiance. Et 12h30, départ en manif sauvage depuis la place Jean Moulin. Du coup, le cortège avance dans Saint-Étienne au cri de « Sainté est à nous, Sainté debout, soulève-toi ». Direction place de l'Hôtel des Villes, la route du cortège est plusieurs fois barrée par des lignes de flics des compagnies départementales d'intervention. Le cortège rejoint le tribunal où des messages de soutien aux camarades sont lancés.
Et on part maintenant à la Motte au bois. Alors, à votre avis, amis auditeurs, quelle est une des grandes industries de la Motte au bois? Pas d'appel, je vous le donne. C'est bien sûr le site de production de patates pommes frites My Cane. Et qu'est-ce qui s'est passé le 9 juin au matin? Des manifestants empêchent l'accès des camions vers l'usine de transformation de pommes de terre. Le barrage filtrant, laissant passer les voitures. Les chauffeurs disciplinés et visiblement résignés se sont rangés sur le bas-côté. Le barrage a été levé vers 17h.
Bah oui, mais tu sais que jeudi c'est frites normalement la cantine.
Et oui, jeudi c'est frites, jeudi tout est permis et je pense que les enfants n'en voulaient pas car c'était pour leur avenir qu'on les privait de frites. Et à Lille, pendant ce temps-là, bloqué à partir de 5h du matin, mercredi, par des militants de la CGT Transport, opposés à la loi travail, donc le port fluvial, bien sûr, et ils ont été évacués par la police vers 11h. Ah oui, c'est moi qui fais la transition. Hop là, alors je change de papier, petit bruit de papier qui vole. Vous entendez, comme d'habitude, le vendredi, on essaye de se cultiver, donc un bruit de journal, ce qu'il n'y a pas que les ordinateurs dans la vie. Il y a aussi les journaux. Et quel journal? Alors, l'UMA. Et qu'est-ce que propose l'UMA d'aujourd'hui? C'est une petite analyse des manifs. Alors, on ne va pas vous cacher qu'on a été un peu surpris par les différences des différentes personnes que faisait intervenir l'humanité pour analyser les violences et... Enfin, les manifs et notamment les violences en manif. On se demandait pourquoi l'humanité mélange cagoule, torchon et PQ. Alors, au rang du PQ, nous avons bien sûr Alain Bauer qui est présenté comme professeur de criminologie au CNAM. Alors c'est bien sûr un professeur de criminologie, c'est aussi un monsieur qui détient beaucoup d'entreprises dans la sécurité, qui est conseiller des puissants qui nous gouvernent, notamment qui a été conseiller de Sarkozy, qui est adjoint à la sécurité, enfin qui a été conseiller de Sarkozy, et du PS. Voilà, donc ce monsieur qui est juste présenté comme un professeur de criminologie, donc comme s'il pouvait nous faire une analyse neutre. Et là, c'est une analyse un petit peu, un petit peu incompréhensible, qui va parler d'une nébuleuse manifestant qui s'intercale entre services d'ordre syndical, les premières lignes policières, de casseurs, etc. Et ce monsieur, il est confronté à qui ? Alors là, au rang des torchons, nous avons Françoise Dumont, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et pourquoi on l'a classée au rang des torchons dans ce Canu Info ? C'est parce que elle fait carrément l'amalgame, en fait, entre une police qui laisse faire des casseurs et des casseurs qui ensuite viendraient justifier une répression qui serait trop violente alors qu'il faudrait taper sur les casseurs plutôt. Pourquoi les laisse-t-on faire ? Donc merci à Françoise Dumont. Et il nous reste la catégorie cagoule qui côtoie tout ça. C'est un certain Philippe Labbé. Alors moi j'en ai jamais entendu parler, vu que j'étais privé d'ordinateur aujourd'hui, j'ai pas pu le rentrer dans mon moteur de recherche favori pour savoir qui c'était vraiment, mais ce Philippe Labbé est ethnologue et docteur en sociologie, et il a l'air assez sympathique. Son article dans l'UMA s'appelle « Les petits sont devenus grands » et comment il analyse les manifs en disant que nous sommes gouvernés par des gens qui se pensent super grands. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens super grands, donc, qui nous gouvernent, notamment François, l'ami François Hollande, à la foule et aux gens en colère? Ils disent « Ah, c'est parce que vous avez pas bien compris, il faudrait qu'on fasse plus preuve de pédagogie ». Alors ça, c'est la première chose qu'ils disent. Et puis hop, le deuxième message, c'est de dire « Eh, ouais, en fait, vous êtes petit, vous avez rien compris, bon, peut-être qu'on n'a pas fait assez preuve de pédagogie, on va vous réexpliquer. » Et puis aussi, vous êtes manipulé par des gens qui, eux, savent faire preuve de pédagogie, c'est les syndicats et les autres personnes d'extrême gauche, bien sûr. Et voilà. Et voilà, voilà. Et après, donc, il précise aussi que là, ce qu'ils essayent de jouer le gouvernement, c'est en pensant que les gens oseront pas bloquer l'euro, et en pensant, lui, il parle ça de la trêve des maillots de bain, en parlant des grandes vacances. Et pour finir, on va le citer directement, puisqu'il nous dit que les grands vont faire l'expérience d'une situation qu'ils ont créée. Une situation est le moment où le spectateur devient acteur, selon Debord et Vanagheim. Imbécile et instrumentalisé contre toute attente, les petits sont montrés sur la scène et ont écrit sur les murs « 1789, le peuple applaudit les casseurs. 1936, les casseurs obtiennent les congés payés. Les petits se sont mis debout, car rien ni personne, pas même les communicants, ne pourrait prétendre qu'on ne peut se relever après avoir été longtemps agenouillé. Les petits sont devenus grands, du coup, les grands sont moins grands. »
Waouh.
Et donc on a parlé des manifs qui ont eu lieu dans toute la France, et on va aussi faire un petit tour des blocages et des grèves, parce qu'il y a ça aussi qui embête beaucoup beaucoup les puissants, notamment on sait tous, parce qu'on nous le dit de partout, même si on voulait pas savoir, que ce soir 10 juin il y a l'Euro 2016 qui commence, et on a trop envie. Et la France doit rencontrer à 21h la Roumanie au Stade de France. Et qu'est-ce qui se passe ? Le pauvre Jacques Lambert, le président du comité d'organisation de la compétition, a annoncé sur France Inter que, je cite, « la fête a été déjà gâchée, l'image qui est donnée n'est pas celle que nous voulions ». Donc le pauvre, qu'est-ce qui se passe effectivement en France en ce moment ? Alors on commence par les raffineries. Donc les raffineries Total des Fézin dans le Rhône et de Donge dans la Loire-Atlantique sont encore à l'arrêt jusqu'à vendredi aujourd'hui, peut-être plus, on ne sait pas encore. Et même si la direction évoque des votes majoritaires des salariés pour reprendre le travail. Et la production n'a pas non plus repris à Gonfreville-l'Orcher dans la Seine-Maritime. Alors, dans les transports, la situation est un peu compliquée aussi pour les fans de football qui ont très envie d'arriver au stade, parce que donc chez les cheminots, à la SNCF, donc il y a eu une tentative de négociation mardi. Avec la CFDT qui a dit qu'elle était d'accord et du coup qu'elle arrêtait la grève. Donc Sudrail, FO et la CGT ont rejeté cette proposition d'accord et du coup poursuivent le mouvement. Donc continue à lutter pour défendre les conditions de travail des cheminots et demande le retrait du projet de la loi de travail. Donc vendredi, ça sera la 10e journée de grève. Et du coup, au niveau de RATP, donc on passe au transport local de Paris et région parisienne. Donc Sud RATP a appelé aussi à une grève illimitée à partir de vendredi, date de l'ouverture de l'Euro de football, pour le salarié et contre la loi du travail. Mais dans les airs aussi, il y a du mouvement. Donc, la grève se confirme du côté d'Air France. Les trois syndicats de pilotes appellent un mouvement social du 11 au 14 juin. Les personnels navigants ont lui aussi déposé un préavis pour la période du 27 juillet au 2 août 2016. Donc, il y a aussi sur plusieurs compagnies aériennes. Je voulais dire des compagnies maritimes comme Corsica, Linéa, la Méridionale. Il y a 48 heures de préavis de grève posé pour les 13 et 14 juin. Donc le 14 juin, ça va être une belle journée. Après, on retourne aux avions. Côté Roissy, Charles de Gaulle, mardi dernier, des centaines de militants CGT, FO et Solidaires bloquaient l'accès au terminal 2F de cet aéroport au cri de retrait de la loi travail, ni amendable ni négociable. Donc, les salariés de la plateforme aéroportuaire, agents d'entretien, d'accueil et de sécurité, se sont rassemblés vers 9h30 avant de marcher en cortège vers les accès routiers des terminaux 2E et 2F, qu'ils ont commencé à bloquer vers 10h15. Le terminal 2E a été débloqué à 11h. Donc, j'imagine que ça a fait quand même pas mal de bruit. Après, on passe chez les éboueurs. Donc, la grève des éboueurs prend de l'ampleur à Paris et en province. Donc voilà, blocage des sites de dépôt des déchets. La CGT appelle également une grosse journée de blocage le 14 juin. Et pour terminer, à la Poste, depuis mercredi dernier, la grève inconductible des postiers des Hauts-de-Seine touche 6 communes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de recommandés qui sont en retard dans ce département. Au secours, au secours. Voilà pour les grèves. C'était sûrement une liste très partielle, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée que la lutte continue et un peu partout.
Et oui, ça continue, mais il faut faire attention parce que la répression continue aussi quand même. Et on peut dire juste à titre d'exemple que la police des polices est saisie de 48 enquêtes judiciaires. Donc il y a aussi beaucoup de moments où il n'y a pas ces enquêtes-là, enfin, il y a eu beaucoup de problèmes de répression très fort pendant les manifestations, mais il y a notamment 48 enquêtes judiciaires. Et toujours pour parler de la répression, il y a eu une action menée par des militants féministes à Rennes contre des affiches de l'enseigne Bagelstein, et ils ont pris quand même de la prison ferme pour une simple action antisexiste quand même. Donc en fait, Bagelstein, c'est une sandwicherie qui fait sa communication sur des blagues du genre pouf en bon état, à peine utilisé, peu de conversation. Enfin, ça, c'est des inscriptions qui sont écrites sur les plateaux, sur les murs, sur le packaging de l'enseigne de restauration Bagelstein, qui est implanté dans plusieurs villes en France. Voilà, c'est écrit il ne faut pas jouer avec le cœur d'une femme, mais plutôt avec ses seins. Elle en a deux. Voilà, que des trucs comme ça. Voilà, eux, ils trouvent que c'est provoque, mais en fait, non, c'est juste du sexisme, comme il y en a partout, tout le temps, de partout, et c'est juste pas drôle. Voilà.
Moi, j'en ai vu une qui est quand même pas mal, c'est l'amour c'est sportif, surtout si l'un des deux est pas d'accord.
Oh là.
Voilà, donc ça c'est le genre de truc où eux ils ont dit que t'avais pas d'humour si tu rigolais pas à ça, mais bon, bref.
Ils ont l'air d'en avoir de l'humour vu comme ils réagissent quand les gens viennent leur faire des petites blagues chez eux.
Voilà, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé du coup en réaction à plusieurs trucs comme ça, sexistes et homophobes? Il y a des militants qui ont voulu protester le 26 mai à Rennes après une mobilisation contre la loi travail, et du coup c'était 4 personnes qui ont été interpellées par la brigade anti-criminalité après une altercation avec le patron, et ils ont été condamnés le lendemain pour violence en réunion lors de manifestations sur la voie publique à des peines de prison ferme allant de 1 à 3 mois par le juge du tribunal correctionnel de Rennes. Donc tous les 4, ils ont été incarcérés à la maison d'arrêt de Rennes. Et voilà, du coup, ça, l'avocate dénonce des peines absolument pas justifiées et elle rappelle que les quatre condamnés avaient tous des casiers vierges et qu'ils n'avaient jamais même été placés en garde à vue. Donc c'est vraiment genre une répression féroce. Il y a une pétition qui est en ligne qui dénonce des peines absolument disproportionnées qui est possible de signer. Et il y a eu également un rassemblement de soutien aux quatre personnes incarcérées ce mercredi à Rennes. Et voilà, les manifestants ont été tenus à distance par les autorités, donc ils n'ont pas été autorisés à se rassembler devant l'enseigne de Bagelstein. Voilà, donc les deux cofondateurs de Bagelstein, eux disent voilà que les militants n'avaient pas compris l'identité non consensuelle, impertinente et borderline de leur communication. Voilà,
Du coup, s'il y en a qui n'ont vraiment toujours pas compris, on peut peut-être rappeler qu'il y a des anciennes Bagelstein un peu partout en France et que ça vaut le coup d'aller discuter avec les personnes et qu'il y en a une à Lyon.
À la part Dieu même.
Du coup, peut-être qu'on peut aller montrer, discuter avec eux, leur expliquer ce que c'est le consensus, tout ça, gentiment ou moins.
C'est ça. Et en attendant, il y a aussi, pour en tout cas les personnes qui sont incarcérées, déjà, bon, il y a aussi une pétition qui tourne et il y a aussi plus de 1000 euros qui ont déjà été récoltés via une cagnotte en ligne pour rembourser les dommages et intérêts et les frais d'avocat des condamnés qui sont aussi assez importants.
C'est le jingle de prochaine rubrique.
Les rafles, les rafles.
Fait,
tu nous as annoncé des rafles, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais tout à fait, donc on poursuit. Non, à toujours à Paris finalement. Enfin, on n'était pas à Paris avant, mais maintenant. C'est une rafle qui a eu lieu au bain-douche en attendant le camp pour réfugiés tout confort qui est promis dans la ville de Paris. Alors, Anne Hidalgo a annoncé la semaine dernière la création d'un camp de réfugiés aux normes ONU à Paris. Et 22 habitants du campement du jardin d'Éole, dans le 18e arrondissement, se sont fait arrêter le jeudi 2 juin, alors qu'ils étaient en train d'aller aux douches municipales. La préfecture de police leur a notifié des obligations de quitter le territoire. Voilà, il y a eu plein d'autres contrôles qui ont été observés aux abords du camp. Donc on voit bien encore une fois la politique du gouvernement qui est d'un côté, on annonce qu'on va faire un super camp très joli, tout ça nanan, donc une annonce teintée d'humanité, et de l'autre côté une répression qui s'amplifie de plus en plus avec des arrestations et des décisions d'éloignement prises à l'encontre des réfugiés. Donc ça s'est passé à Paris, mais après on peut rappeler que c'est aussi la fin du plan froid, enfin de la prolongation du plan froid. Donc là, il y a plein de personnes qui sont aussi sorties un peu de partout des hôtels parce qu'ils étaient pris en charge. Et maintenant, c'est fini. Et donc maintenant, c'est les obligations de quitter le territoire qui pleuvent un peu de partout. Donc là, il y a eu le campement d'Éole qui a été évacué le 6 juin. Encore un, il y en a déjà eu pas mal. Il y a eu environ 1500 personnes qui étaient contraintes d'y vivre jusqu'à présent dans des conditions déplorables. C'était surtout des Afghans, des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens et des Éthiopiens qui ont fui leur pays et qui ont demandé l'asile. Et qu'a priori, enfin, il y en avait qui demandaient encore l'asile, d'autres qui ont été déboutés. Et voilà, un an après la première évacuation du campement de la Chapelle en juin 2015, les exilés qui arrivent en région parisienne continuent d'être harcelés au lieu d'être accueillis. Et ça, voilà, ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, dans les faits, c'est que les jungles parisiennes se succèdent faute de structure d'accueil. Donc, du coup, il y a le harcèlement de la police. Puis, comme ils ont le droit de rester les personnes, notamment parce qu'il y en a pas mal qui ont fait des demandes d'asile, et ben, du coup, c'est juste que ça déplace les gens ailleurs, quoi. Et ça continue tout le temps, ces arrestations.
Ok. Et bah, c'est vachement glauque. Et du coup, on peut peut-être rappeler aussi au passage, là, il y avait des histoires de loi, non, qui me remettait en question le fait de ne pas communiquer les infos pour les travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement.
Ça, en fait, c'est la loi de l'immigration qui est passée en mars, mais du coup, elle n'est pas encore appliquée. Ça, ce sera le décret d'application, ça risque d'être vers novembre. Et où, du coup, effectivement, toute la loi de l'immigration, ça change. Il y a plusieurs trucs qui changent. Il va y avoir une carte pluriannuelle. Donc, à la base, ça a l'air d'être mieux. Mais en fait, derrière ça, ça va être une logique de contrôle permanent qui va être renforcée. Et effectivement, il va y avoir, par exemple, des assignations à résidence qui vont être aussi plus fréquentes. Et effectivement, dans cette loi, il y a aussi la levée du secret professionnel où toutes les institutions, pas que les travailleurs sociaux, mais les écoles, les pôles emploi, les banques, EDF et tout ça, tout le monde devra répondre à la préfecture si la préfecture pose des questions sur la situation des personnes en demande de régularisation. Sous peine, si les institutions ne veulent pas répondre, elles devront payer 4 500 € d'amende. Enfin, ça, c'est dans la loi, quoi, qui risque d'être appliquée si on ne se mobilise pas.
Ok, merci. Et du coup, alors là, on fait un petit déplacement. Enfin, on retourne à Paris, on reste de la nationale, mais quel déplacement ? On avance d'un jour, puisque demain aura lieu à Paris la Mad Pride. Alors, qu'est-ce que c'est que la Mad Pride ? C'est une marche des fiertés autour de la folie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette Mad Pride ? C'est que, du coup, en fait, à la base, c'était un événement, du coup, pour dénoncer la stigmatisation tous les discours qu'il peut y avoir. De stigmatisant autour de la folie, comment on emploie les mots pour discréditer d'autres personnes, comment on met à l'écart des personnes dites folles à un moment, et que petit à petit, en fait, des personnes dénoncent que cet événement est devenu de plus en plus politiquement correct, notamment le comité de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, et André Bitton qui dit, lui, dans l'Humanité, que les abus des institutions, enfin, que, en fait, cette manifestation ne dénonce plus les abus des institutions psychiatriques qui est devenue très plan-plan. On peut en profiter pour rappeler qu'il y a le contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc un organe étatique qui vise à contrôler tous les lieux dans lesquels on enlève la liberté à des gens, que ce soit pour des raisons judiciaires ou médicales. A fait paraître un rapport là très récemment, je crois que c'était en mai, fin mai, sur l'enfermement dans les HP, et qui dénonce un recours de plus en plus massif, en fait, à la chambre d'isolement, à la contention et à plein d'autres choses. Et sinon, pour garder un peu d'espoir et de bonne humeur, il y a eu une Fada Pride, par contre, la semaine dernière à Marseille, et qui, elle, gardait un caractère beaucoup plus artisanal, beaucoup plus revendicatif. Voilà, vous pouvez retrouver des infos là-dessus en tapant Fada Pride, Mad Pride ou nébuleuse.info sur Internet.
Et maintenant, quelques nouvelles de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, même pas de la lutte, mais c'est donc, comme vous le savez sûrement, depuis longtemps, il y a une lutte à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher la mise en place d'un aéroport. Puisque ce sera un aéroport très très coûteux, qui sert à rien, et donc pas écologique, bien sûr. Donc, depuis plus de 30 ans, il y a des personnes qui sont installées sur la zone à défendre et qui luttent activement au quotidien contre ce projet. Et là, en fait, ils ont décidé, il y a quelques mois, de faire un référendum pour entre guillemets, voir ce qu'en pense la population. Mais bien sûr, ça fait plein de questionnements, cette idée de référendum, puisque la question, c'était comment il va être mis en place. Est-ce que les personnes auront vraiment les informations pour savoir ce que ça peut engendrer comme conséquence pour eux, cet aéroport? Et quelle impartialité il va y avoir, comment ça va être proposé? Là, il y a le président de la Commission nationale du débat public, chargé d'informer les citoyens sur le projet d'aéroport, qui a collaboré pendant 10 ans avec le paysagiste recruté par Vinci pour son aérogare. Donc, il nie tout conflit d'intérêts, alors qu'il présente ce jeudi une synthèse des débats. Du coup, en apparence, toutes les conditions sont réunies pour informer au mieux les électeurs et électrices appelés aux urnes le 26 juin pour se prononcer sur l'opportunité de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. et la Commission nationale du débat public doit publier sur son site internet un document de synthèse qui récapitule les motifs du projet et ses impacts sur l'environnement. Ça, c'est à partir du 9 juin. Donc ça va être le seul dossier d'information fourni par l'État aux électeurs et électrices pour leur permettre de choisir s'ils répondent oui ou non à la question « Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ?» Donc là, ça va être chaque mairie de Loire-Atlantique, seul département où les habitants et habitantes sont consultés, qui doit mettre un ordinateur à disposition des administrés ou une version papier de ce dossier d'information. Et du coup, c'est vraiment une campagne hyper particulière parce que du coup, il y a, enfin, voilà, c'est chacun sa peau en fait pour donner ses informations. Il n'y a pas d'affichage ni de tractage pris en charge par les pouvoirs publics. C'est chacun qui se débrouille par ses propres moyens pour déposer des argumentaires dans les boîtes aux lettres du canton et organiser des réunions publiques. Et voilà, donc ça fait que le dossier d'information du public revêt une importance particulière. Donc là, la CNDP a pour mission officielle de veiller au respect de la participation la plus large des citoyens et citoyennes pour l'élaboration des projets d'aménagement. Et du coup, ils disent qu'ils sont très attachés à la neutralité et à l'impartialité des procédures. Mais qu'est-ce qu'on peut voir du coup ? On peut voir que l'ancien président de la commission, c'était qui ? C'était un ingénieur des ponts, un ancien préfet, qui a occupé le poste de directeur des routes au ministère de l'équipement entre 89 et 99. Et donc pendant cette décennie, il a régulièrement fait travailler un paysagiste. Et ce paysagiste n'est autre que le paysagiste du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, voilà. Donc c'est lui qui a co-conçu la plateforme aéroportuaire qui a valu à Vinci de remporter la concession en 2010. Donc voilà, c'est terrible. Mais
on file à l'international. Mais...
Ouais. Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et voilà, dans la rubrique internationale, on va parler de la Colombie. Pourquoi la Colombie ? Parce que la Colombie connaît depuis une semaine et demie un mouvement social finalement pas non plus dingue, mais surtout, pourquoi ça nous a mis la puce à l'oreille ? Parce que les forces de l'ordre se sont déjà bien bien illustrées. Ah oui, parce qu'en 6 jours, il y a déjà 3 morts, des centaines de blessés et de prisonniers et prisonnières politiques. Et alors même que le gouvernement en fait était en négociation de paix avec les FARC, c'est-à-dire en pleine négociation de paix, ils butent des gens et un truc un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et ben là, la Cumbria Agraria qui a lancé ce mouvement. En fait, c'est le sommet agraire. Et en fait, du coup, cette organisation, ils pensaient en fait que pendant ces négociations de paix, ça tombait vachement bien. En fait, c'est qu'ils pouvaient attaquer les racines sociales en fait et politiques du conflit pour transformer en fait le modèle économique et social en place, quoi. Du coup, profiter du moment en train de négocier la paix avec les FARC pour faire qu'il n'y ait plus de guerre possible avec les FARC. Et du coup, ils ont commencé le 30 mai 2016 par une grande grève et mobilisation dans la société civile. Alors, qu'est-ce qu'ils demandaient ? Eh bien, tout simplement, ce qu'ils avaient déjà normalement obtenu lors du dernier mouvement social en 2014, où le gouvernement s'était engagé à mettre en place tout un tas de réformes qu'il n'a jamais mis en place. Donc, par exemple, en fait, sur la question des terres et du territoire, puis de l'agencement territorial, ils avaient obtenu, en fait, que les communautés autochtones, les communautés paysannes puissent définir elles-mêmes commençons à exploiter leur territoire et qu'ils soient aussi reconnus en fait tout bêtement comme des personnes qui ont les mêmes droits que les autres et que les délimitations des communautés soient réellement reconnues, respectées. Et puis à l'inverse de ça, le gouvernement lui a plutôt développé le modèle agro-industriel et minéraux énergétiques, c'est-à-dire voilà, avec des énormes exploitations agricoles ou des exploitations minières. Et puis, du coup, en procédant par expulsion, vol de terrain, réquisition et compagnie. Les organisations demandent aussi en fait le retrait de la loi Zidress qui va favoriser les investissements des multinationales étrangères et qui du coup en fait va faire que des énormes agro-industriels s'implantent en fait dans des territoires qui appartiennent normalement à des communautés reconnues. Et alors, les communautés rurales, bêtement, ils demandent un programme qui leur permet de défendre leurs propres droits et puis leur sécurité alimentaire avec des projets qui soient réfléchis en fait à partir de ce que eux ont besoin et ce que eux vivent. Ils demandent aussi, bien sûr, en fait, la fin d'autorisation des exploitations accordées aux multinationales pour l'exploitation du sous-sol, parce que jusque-là, en fait, ils n'ont pas du tout les multinationales respectent pas du tout le moratoire qui leur interdisait tout un tas de choses, notamment d'extraire sur le sol des communautés. Et puis, aussi, bêtement, de demander aux populations qui sont sur ces territoires s'ils sont d'accord ou pas pour qu'il y ait une énorme mine qui leur pourrisse la vie. Il demande aussi l'abrogation en fait de la loi de sécurité citoyenne qui en fait est une loi un petit peu liberticide, la sécurité quoi. Et ils veulent en fait que leurs droits humains soient garantis en fait tout simplement. Et puis ils demandent aussi une politique en fait contre les groupes paramilitaires qui sévissent dans la région. Et tout un tas de revendications aussi autour de la culture de coca, de marijuana, de pavot, la politique anti-drogue du gouvernement a été complètement mise en échec en fait. C'était juste de la répression, une attaque contre les FARC mais aussi contre tous les autres groupes, les cartels et les groupes paramilitaires. Et donc à la place ils demandent en fait des programmes de substitution à ces cultures en fait, des choses qui seraient progressives, qui correspondraient aux besoins des personnes, qui seraient décidées avec elles et qui seraient en plus ça serait pas mal si ça pouvait être écologique et puis durable. Et alors donc concrètement ce qui s'est passé le 30 mai, c'est que les organisations ont appelé des blocages routiers qui ont rassemblé plus de 200 000 personnes à une centaine de points différents de la ville du pays. Et donc ils pensaient un petit peu rester une dizaine de jours sur place, mais dès le premier jour en fait la police a attaqué et a fait des centaines de blessés et direct un mort qui a été renversé par un camion de la police anti-émeute. Et au bout d'une semaine, la situation est de plus en plus tendue. Il y a maintenant 200 personnes qui sont détenues dans des casernes militaires, et donc dans lesquelles on leur donne ni eau ni nourriture. C'est des gens qui pendant la nuit leur balancent de la bouffe et de la flotte par les murs. On ne sait pas pourquoi elles sont là, on leur dit rien, voilà. Et donc il y a quand même eu 3 morts qui ont été tués par les forces de l'ordre. Petit malin, les forces de l'ordre, ils utilisent des munitions artisanales, ce qui fait qu'elles sont en plomb ou en verre, donc on voit plus que c'est des balles, on pense juste que c'est des objets, et du coup ils peuvent faire la médecin légiste qui les serait copain avec eux pourrait dire que c'est pas de la faute des forces de l'ordre. Et donc voilà pour la Colombie, l'agenda c'est sur Canu Info, sur Radio, sur Rébellion.info. On rappelle demain soir la boum de solidarité, la boum de la caisse de Sceaux à partir de